Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour la deuxième conférence du cycle consacré aux questions géopolitiques, Le Monde sur un fil, que nous organisons en collaboration avec la revue Politique étrangère publiée par l'IFRI. Alors la rencontre de ce soir est consacrée à la place de la justice dans les relations internationales. Elle sera animée par Dominique David de l'IFRI, un des rédacteurs en chef de la revue Politique étrangère. Et je lui laisse le soin de vous présenter nos intervenants. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci de votre accueil, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons donc parler de droit en essayant d'être le plus concret possible. Ne croyez pas que le droit, c'est toujours triste. D'abord, c'est efficace et deuxièmement, ça peut être extrêmement concret. Pour ouvrir le débat, simplement une remarque qui montre que ce débat s'inscrit dans un héritage historique assez long. Le XXe siècle, c'est à la fois le siècle de la plus grande horreur. On commémore aujourd'hui la libération du camp d'Auschwitz. Et puis c'est celui aussi, paradoxalement, du plus grand progrès de l'organisation juridique mondiale. Je suis de citer la Société des Nations, et puis l'Organisation des Nations Unies qui a quand même duré un peu plus longtemps. C'est donc le siècle durant lequel le droit international, qui a existé depuis des siècles, bien entendu, s'est plus structuré que dans les siècles précédents. Et puis il y a eu un moment où ça a failli, où ça a semblé s'emballer en quelque sorte, la dernière décennie du siècle, les années 90, après la liquidation de la guerre froide, où en quelques années on a créé dans des domaines extrêmement différents, des cours, des institutions, il suffit que je cite l'Organisation mondiale du commerce par exemple, qui se fixait comme objectif d'organiser le commerce mondial au temps de la mondialisation. La Cour pénale internationale, bien entendu, dont nous allons reparler tout à l'heure, les traités de désarmement qui semblent aller un petit peu mal par les temps qui courent, etc. On a déployé pendant une dizaine d'années beaucoup d'institutions et donc on a suscité beaucoup d'espoir. Et puis le début du XXe siècle, il suffit que je dise George Bush, le deuxième, que je dise Donald Trump, c'est un petit peu injuste parce que je ne cite que les Américains, mais je pourrais dire aussi Erdogan, je pourrais dire Poutine, etc., pour essayer de montrer qu'il y a un certain retour vers la puissance, vers l'affirmation des souverainetés étatiques contre justement cette logique juridique internationale, ce qu'on a appelé le multilatéralisme. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une régression dans l'usage du droit international ? À quoi sert ce droit international ? Et est-ce que ce droit est l'organisateur de notre monde ou est-ce qu'il est simplement le miroir de notre monde ? S'il est l'organisateur, il domine et on doit le suivre. S'il est le miroir de notre monde, ben, ça veut dire qu'il y a des moments où il est plus important et puis il y a des moments où il est moins important. Et il s'agira pour nos deux interlocuteurs d'essayer de qualifier la période dans laquelle on vit. Voilà, c'est mon introduction est terminée. Je remercie beaucoup Joël Ubrecht et Marion Leblanc-Worer de s'être prêtés après l'écriture de leur papier dans Politique étrangère que je tiens ici, de s'être prêtés à l'exercice de ce soir. Nous allons parler donc de deux exemples admirable, si je puis dire, de ce débat sur le droit aujourd'hui. La Cour pénale internationale, créée à la fin des années 90 et qui avait suscité beaucoup d'espoir et d'ailleurs beaucoup qui avait bien commencé, si je puis dire. Et puis ce qu'on appelle, à juste titre ou non, l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire la manière dont les États-Unis aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls, mais c'est eux qui le font de manière la plus bruyante, sans doute, la manière dont les États-Unis se servent du droit comme instrument de leur propre puissance. Juste un petit mot sur l'organisation du débat. Je vais donner la parole à nos deux intervenants successivement pour une dizaine de minutes. Et puis après, on engagera une discussion entre nous, avec vous. On verra comment ça s'organise. Je ne doute pas que vous ayez aussi beaucoup de choses à dire. Joël Ubrecht, donc, le titre de votre... je ne peux pas faire mieux que reprendre le titre de votre article dans Politique étrangère. Ce titre, c'est « La Cour pénale internationale pèse-t-elle encore sur l'échiquier mondial ?» C'est extrêmement méchant comme titre. Alors défendez-vous.
Alors, je ne vais pas me défendre, ni même d'ailleurs me porter en défenseur de la Cour pénale internationale, bien qu'elle soit en quelque sorte aujourd'hui mise à l'accusation. Non, vous reprenez mon titre, je vais reprendre votre introduction. Vous avez rappelé que le XXe siècle a été le théâtre des pires atrocités, et que nous en commémorons aujourd'hui l'une d'elles, mais que le droit aussi était une réponse à ce moment-là à ces atrocités. Et bien sûr au génocide des Juifs. Nous commémorons aujourd'hui la libération des camps, du camp d'Auschwitz, a été apportée comme réponse la mise en place d'un tribunal pénal militaire international à Nuremberg. Et Nuremberg, c'est intéressant parce que c'est aussi la ville des lois discriminatoires de Nuremberg. Et ça nous rappelle que le droit, il n'est pas monolithique. On n'est pas ou dans une alternative, dans un monde sans droit ou dans un monde de droit. On est dans un monde de droit pluriel, de nature différente. Qui et le droit est ambivalent. Il peut être utile, il peut être pervers. Et tout à fait. Et donc, et de la même manière, la commémoration la semaine dernière à Jérusalem a réuni les chefs d'État autour d'une condamnation dont je ne doute pas qu'elle était commune, du génocide des Juifs, et elle a laissé transparaître en même temps les divisions politiques très fortes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et il en va de même pour la Cour pénale internationale. On a commémoré il y a deux ans, en 2018, les 20 ans de la mise en place, de la création du statut de Rome, qui a mis en place la Cour pénale internationale. Eh bien, de la même manière, ces commémorations ont laissé éclater aussi les divisions qui existent autour de cette Cour. Alors on pourrait partir de ce moment de crise assez fort que traverse la Cour. C'est ce que je fais dans mon article en partant de la tribune qui a été co-signée par les quatre présidents de l'Assemblée des États parties, qui est l'Assemblée qui réunit les États qui ont ratifié le statut de Rome et qui ont, à quatre, c'est quand même pas anodin, signé une tribune titrée « Il faut réparer la Cour pénale internationale ». Alors, on peut partir de là. Moi, je partirais plutôt d'une formule de Frédéric Maigret, qui est de l'université de McGill, et que je trouve particulièrement forte, qui résume ainsi le dilemme fondateur de la justice pénale internationale. La justice pénale internationale, dit-il, c'est un objet politique qui ne se veut pas politique. Et cette tension intrinsèque entre la justice et la politique, où il ne faut pas ranger d'un côté une politique qui serait forcément mauvaise et forcément machiavélique, et puis de l'autre côté une justice qui, elle, serait forcément pure et souhaitable, mais plutôt voir ce couple justice-politique comme un couple dans lequel il faut arriver à articuler autonomie et interdépendance. Et ça, c'est une tension qui existe aussi à notre échelle, hein, au sein de chaque État de droit, et d'autant plus d'ailleurs qu'on est dans une démocratie. D'une certaine manière, les tensions sont d'autant plus vives à ce moment-là. Et dans le cadre des relations internationales, ces tensions, non seulement sont très fortes, mais elles sont d'une autre nature. On peut dire que d'un côté, la Cour pénale internationale, elle poursuit les objectifs de n'importe quelle autre juridiction, c'est-à-dire elle doit poursuivre, elle doit arrêter, elle doit juger, condamner ou acquitter selon le cas, les suspects mis en cause. Mais d'une part, elle agit dans le cadre d'un statut qui a été le fruit de négociations diplomatiques. Elle poursuit des crimes qui sont par essence des crimes politiques, qu'ils soient des crimes qui ont été mis en œuvre par un État ou bien qu'ils soient des crimes commis dans un affrontement avec cet État, ce sont par essence des crimes de nature politique. Et ensuite, pour étayer ces dossiers, pour arrêter les suspects, elle n'a pas de force de police, elle a besoin d'une coopération, là aussi, de nature politique pour pouvoir avancer. Ces jugements, elle va les produire en suivant des procédures qui, en elles-mêmes, ne sont pas politiques, assurent d'ailleurs une équité, respectent la défense des accusés. Mais ces verdicts vont avoir un impact politique, enfin, souvent, très fort. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on le voit en République démocratique du Congo. Et donc, dans mon article, ce que j'ai fait, c'est essayer de visiter ces relations complexes, ambiguës, mais qui sont indépassables entre la justice et la politique, en dépliant les liens entre la Cour, d'une part, et les États parties, donc les États qui ont ratifié le statut de Rome, la Cour et les États non parties, ceux qui n'ont pas fait, et au sein de ces États non parties, en particulier les grandes puissances qui n'ont pas ratifié, à savoir les États-Unis, la Russie, il y a aussi la Chine et l'Inde qui n'ont pas ratifié, mais aussi ses relations avec le Conseil de sécurité, avec des organisations internationales ou régionales, comme l'Union africaine, avec qui les relations n'ont pas été toujours très, très bonnes, et également avec d'autres entités elles non étatiques, comme les ONG, qui ont pris une place importante sur la scène internationale. Et pour décrire cet écheveau de relations, alors j'ai utilisé une image, qui est une image, donc elle a ses limites évidemment, qui est celle d'un procureur, joueur d'échecs, et jouant une partie d'échecs en simultané avec plusieurs adversaires. C'est-à-dire que notre procureur, il doit savoir se montrer à la fois tacticien et à la fois stratège. Alors, stratège, il montre qu'il l'est en publiant régulièrement des stratégies de poursuite et d'enquête. Mais de toute façon, avec les moyens qui lui sont donnés, la Cour pénale internationale, elle ne traite au mieux qu'une dizaine de cas par an. Et donc, il y a de toute façon des choix à faire au sein même d'une stratégie présentée de manière assez globale. Et les choix stratégiques du procureur actuel, le Fatou Bensouda, on le sait, ne sont pas les mêmes que ceux qu'ont fait son prédécesseur Moreno Ocampo. Moreno Ocampo, il a été souvent... On attendait de lui, d'une certaine manière, qu'il rassure les États, qu'il montre que cette cour pénale internationale qu'on avait mise en place, elle ne serait pas conduite par un chevalier blanc incontrôlable ou lui-même politisé. Et donc, Ocampo a largement privilégié, et en tout cas dans un premier temps, ce n'était que ce type d'affaires-là qui était ouverte, les saisies directes par les États parties. Et même si, vous avez évoqué le nom de Bush Junior, même si très vite, les États-Unis ont conduit une politique très agressive vis-à-vis de la Cour pénale internationale, Ocampo, dans la mesure du possible, c'était très clair pour le Soudan, a tactiquement cherché des rapprochements avec la Cour.
Vous devriez expliquer un petit peu ce que vous entendez par politique agressive.
Alors, la politique agressive mise en place, d'ailleurs, sous l'égide de Bolton, hein, qui est revenu sous l'administration Trump, bon, qui aujourd'hui a quelques différends avec le président, mais qui, en tout cas, s'accordait avec le président actuel et avec Bush Junior sur la dangerosité de cette cour qui pourrait s'aviser de mettre en cause des soldats américains. Et donc, la politique agressive, elle a été celle de non seulement passer des actes avec des États partis pour que ces États partis s'engagent vis-à-vis des États-Unis de ne jamais extrader de ressortissants américains, mais elle a mené une politique de pression sur ces États pour arracher ces accords bilatéraux. Voilà un type de politique agressive. Sous Donald Trump, cette politique agressive s'est développée d'autres manières. On en reparlera, puisque notamment pour le cas de l'Afghanistan, elle a été largement employée. Voilà. Fatou Bensouda, par rapport à Ocampo, donc, qui a eu cette politique plutôt prudente vis-à-vis des États, a quant à elle essayé de corriger un certain nombre de dispositions prises par son prédécesseur. Et par exemple, elle a d'elle-même réouvert le dossier Afghanistan. On en vient de parler. Elle a réouvert le dossier Palestine. Et donc, elle n'est pas sur la même ligne. Elle a pas pour autant réussi toujours, et elle a elle-même, enfin, elle termine son mandat aussi en position de faiblesse pour d'autres raisons, mais elle n'a pas réussi, par exemple, à ouvrir de procédures en Côte d'Ivoire contre des alliés de Ouattara, par exemple, hein, pour essayer de montrer une différence entre la politique d'Ocampo, qui était une politique qui, elle aussi, se cantonnait souvent à poursuivre les opposants au pouvoir en place. Alors, ça, c'est le procureur. Il faudra aussi, dans la discussion, je ne vais pas le développer maintenant, mais évidemment, évoquer l'organisation des chambres et l'interprétation que font les juges de leur statut. Et quand je dis l'interprétation que font les juges de leur statut, c'est à prendre double sens, c'est-à-dire le statut de Rome avec lequel ils travaillent, et puis leur statut, c'est-à-dire leur place au sein de la procédure. Et ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là, sur cette interprétation. On l'a vu dans l'affaire Jean-Pierre Bemba en particulier, et aussi sur l'affaire d'ailleurs Afghanistan. Bon, il faudra aussi qu'on s'interroge ensemble sur le rôle joué par les États au sein de l'Assemblée des États parties, donc ces États qui votent le budget, qui amendent les textes de la Cour et qui élisent le procureur. Le prochain procureur va être élu à la fin de l'année, ainsi que les juges, mais dans lequel il y a aussi eu des tensions très fortes. Alors, que ce soit pour amender le statut et rajouter un crime qui était prévu dès le départ, mais qui n'était pas défini en 98, le crime d'agression, bon, sur lequel il y a quand même eu un vote par consensus, hein, mais autour duquel, manifestement, il y a quand même, au sein des États parties, en tout cas pas la volonté de l'appliquer de la même manière que les autres crimes internationaux de la Cour. Et puis, surtout, ces tensions, elles ont été manifestes autour du dossier soudanais et kényan. Mais aujourd'hui, les lignes de tension les plus vives, hein, ce sont celles avec les États non partis et avec les grandes puissances, les États-Unis pour l'Afghanistan, la Russie pour la Crimée. Et je dirais, peut-être aujourd'hui sur un mode un peu plus mineur, mais qui est là quand même, la mise en cause d'Israël dans le dossier palestinien. Bon, autant d'États qui sont des États non partis, donc qui n'ont pas ratifié, et pour deux d'entre eux qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, donc qui pouvaient se penser peut-être un peu protégés de l'action de la Cour, mais dont on voit que malgré tout, ils se font rattraper par la manche par la Cour. Alors, ça traduit malheureusement pas une force de cette Cour. Elle arrive à attraper tant bien que mal par la manche les États-Unis, la Russie. Elle reste dans une position de faiblesse, comme on l'a vu avec les décisions des juges de la Chambre préliminaire qui ont estimé que la Cour ne parviendrait pas effectivement à mener des procès sur le dossier Afghanistan et qu'il valait mieux donc ne pas autoriser le procureur à ouvrir une enquête sur ces crimes-là. Et on le voit aussi dans la relation entre la Cour et le Conseil de sécurité, où le Conseil de sécurité a eu à deux reprises saisi la Cour pour le Soudan, pour la Libye, mais n'a jamais ensuite soutenu cette Cour. Et aujourd'hui, mais elle le fait depuis des années, Fatou Bensouda, je ne dirais pas implore, parce qu'elle les invective aussi, mais implore et invective ce Conseil de sécurité qui ne la soutient pas, que ce soit pour le Soudan ou aujourd'hui pour aussi la Libye. Et donc, plus qu'une justice de vainqueur, comme avait pu l'être le Nuremberg, plus qu'une justice de puissance, comme on l'a parfois dit, de la Cour, la Cour pénale internationale aujourd'hui apparaît comme une justice relativement impuissante. Et donc c'est une impuissance que nous pourrons aussi interroger ensemble. Alors il y a des pistes, hein, de réforme interne pour essayer de sortir de cette impasse. Hein. Il est certain qu'on ne le fera qu'en replaçant la Cour dans un contexte plus global de relations internationales, ce n'est pas seulement des problèmes internes à la Cour, mais aussi en la plaçant dans une dynamique plus globale de justice, et j'en terminerai par là, de justice pénale internationale. Et peut-être dans une forme de dialogue des juges, hein, pour là reprendre une des thématiques qui était dans un des articles intéressants sur l'Europe du numéro de Politique étrangère, de dialogue avec les juges nationaux. Et de la même manière, je dirais, le droit n'est pas qu'un instrument. Ce n'est pas qu'un instrument, c'est une dynamique, ce que montre aussi très bien dans son article Marion Leblanc-Vorer. La réponse à l'intrusion du droit américain, ça a été la loi Sapin, ça a été la construction d'un arsenal juridique. Eh bien, le statut de Rome, par sa complémentarité, on pourra revenir sur ce terme et ce que ça contient, par la complémentarité, par la coopération, par son extension jusque dans des processus qui sont des processus parfois non pénaux, de justice transitionnelle, bon, nourrit cette dynamique. On peut le voir, enfin, toute proportion gardée, par exemple pour la Birmanie, où on a la Cour internationale de justice qui a donné une décision, où on a un mécanisme d'enquête qui a été mis en place, où la Cour pénale internationale, alors que la Birmanie n'est pas état partie, bon, s'invite dans cette affaire. Voilà, une dynamique. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut essayer d'impulser, de renforcer.
Merci beaucoup. Effectivement, l'actualité nous sert, puisque c'est, je crois qu'il y a deux ou trois jours que la Cour pénale internationale a rendu un avis donc, sur les Rohingyas.
Alors, la Cour internationale de justice, donc, qui n'est pas la Cour pénale internationale.
C'est la CIJ,
qui est donc une cour qui ne juge pas des responsabilités individuelles, mais se prononce par rapport à des litiges entre
États. Qui fait partie de la justice internationale et qui n'a néanmoins absolument aucun moyen de suivre l'exécution de... disons de ses conseils, je ne sais pas. Bon, merci beaucoup. On va revenir sur tous ces sujets. Vous me pardonnerez, j'ai zappé votre présentation comme responsable à l'Institut des hautes études de la justice des programmes précisément sur la justice pénale internationale. Pardonnez-moi. Monique Leblanc-Vorer, nous allons donc passer aux États-Unis. Vous êtes journaliste, vous êtes économiste, vous avez entre autres charge travaillé à la Banque mondiale, vous avez été rédactrice en chef de AGF Hebdo et je vous interpelle également sur le titre de votre papier, parce que je trouve que il n'y a pas de meilleure interpellation. Vous écrivez sur le droit, armes économiques et géopolitiques des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'interpeller les États-Unis ainsi ?
Je vous en prie. Écoutez, merci beaucoup. Oui, donc, le droit, un instrument de politique économique et géopolitique, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas l'apanage des États-Unis, mais effectivement, c'est bien les États-Unis qui, depuis une vingtaine d'années, ont développé une politique juridique extérieure qui est sans commune mesure et qui leur a permis d'influer sur l'économie et la géopolitique. Donc, les raisons sont multiples, en fait, de ce développement du droit comme arme économique et politique. C'est la globalisation des échanges, c'est l'internationalisation des entreprises et c'est la volonté des États de lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Et comment les États-Unis ont réussi finalement à faire appliquer leurs lois à des personnes physiques ou morales, donc de pays tiers? C'est tout simplement en rendant leur droit extraterritorial. Et il y a un certain paradoxe parce que pour eux, il n'est pas extraterritorial, c'est simplement leur conception de ce qui est lié le territoire américain. Et donc, c'est un petit peu ce dont on va parler. Donc, en fait, il y a deux textes, il y a énormément de textes américains qui ont des dispositions extraterritoriales, mais il y en a deux qui sont particulièrement importants et qui ont fait, ceux qui sont le plus médiatisés et ont conduit au plus d'amendes ou d'effets sur les entreprises, c'est donc tout ce qui est la lutte contre la corruption et bien sûr les sanctions. Donc, c'est intéressant de se pencher sur la lutte contre la corruption. En fait, les États-Unis ont commencé à développer une jurisprudence sur le sujet à partir du Watergate. Au moment du Watergate, ils se sont aperçus, pendant les écoutes, ils n'ont pas seulement aperçu ce que faisait Nixon, ils se sont aperçus aussi qu'il y avait beaucoup de corruption d'agents publics à l'étranger. Et donc, c'est de là qu'est né le Foreign Corrupt Practice Act, donc le FCPA. En 1977, qui vise à poursuivre la corruption des entreprises à l'étranger. Alors, au départ, c'est un texte qui s'adresse purement aux entreprises américaines. Donc les résidents américains, les entreprises américaines, les entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Donc là déjà, on peut avoir des entreprises étrangères, mais qui sont donc implantées aux États-Unis. Et également toute personne dont on peut établir qu'il y a un lien de rattachement aux États-Unis. En même temps, pendant... Quelle que soit sa citoyenneté. Mais au début, il ne s'intéresse qu'aux entreprises américaines. Et parallèlement, c'est là qu'on voit que le droit, est utile, vous disiez, il peut être utile ou pervers. Là, il y a une certaine utilité du droit parce qu'ils ont poussé tous les États à se mettre... au niveau, en termes de lutte contre la corruption, ce sont eux qui ont été vraiment à l'initiative de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption en 98. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils s'aperçoivent quand même que, à force de poursuivre leurs propres entreprises, ce sont les entreprises étrangères qui gagnent des parts de marché parce que, elles, justement, personne ne les poursuit. Donc, ils étendent leur conception du lien avec le territoire américain. Et c'est là qu'on parle d'extraterritorialité. À partir de ce moment-là, un email qui est envoyé, ou un courrier à l'époque plutôt, qui est envoyé par la poste aux États-Unis, une réunion qui se tient à l'aéroport de Miami, un appel téléphonique vers les États-Unis peut engendrer un lien avec les États-Unis et donc permet au département de la justice de poursuivre les entreprises européennes. Et la lutte contre la corruption des entreprises européennes prend vraiment de l'ampleur après les attentats du 11 septembre, puisque là, l'administration américaine fait vraiment un lien entre le financement du terrorisme et la corruption. Et donc, oui, vous parliez de Bush et de Trump, mais en fait, c'est surtout l'administration Obama qui a commencé à vraiment lutter contre, à poursuivre les entreprises étrangères. Donc à partir de 2006, les entreprises, surtout européennes, ont été poursuivies pour corruption d'agents étrangers. Il y a énormément de cas, ils ont été beaucoup médiatisés. Alors oui, des majorité d'entreprises qui ont été poursuivies étaient européennes. Elles ont payé des amendes massives. Il faut quand même reconnaître qu'à l'époque, elles n'étaient pas poursuivies par leurs propres États. Je rappelle qu'en France, les pots de vin étaient défiscalisés jusqu'en 2000. Donc oui, elles ont été poursuivies, mais elles étaient un petit peu coupables. Et alors, ce droit, la poursuite des Américains sur leur propre... Le texte, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, c'est leur puissance, ce n'est pas seulement l'application du droit, c'est la jurisprudence. Parce qu'en fait, le fait d'être poursuivi par des autorités américaines fait que les entreprises sont paralysées et préfèrent plaider immédiatement coupable et ne pas aller au procès. C'est ce qui explique aussi qu'il y a eu autant de cas. C'est parce qu'elles préfèrent plaider coupable, payer une amende, que perdre des années... pour aller jusqu'à un procès qui, si elle le perd, en gros, les détruit. On se rappelle d'Arthur Andersen. Donc, pour finir sur la corruption, je voudrais dire aussi que l'exemple des États-Unis a conduit les pays européens à se mettre à niveau. Et là, on a vu en Angleterre, puisqu'il y a eu le UK Bribery Act. Et vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la loi Sapin. La loi Sapin, en 2016, a mis en place toute une boîte à outils pour poursuivre les entreprises corrompues. Et ces textes nationaux permettent désormais de contrer le droit américain, puisque les autorités, en fait, coopèrent avec les États-Unis et disent « Oui, cette entreprise, nous la poursuivons, donc vous n'avez pas à la poursuivre. » Et ça s'est vu récemment, l'année dernière, HSBC a été poursuivi par la France pour 3 milliards d'amendes. Les États-Unis ont coopéré, mais ne sont pas intervenus. Donc voilà, l'application du droit, oui, une arme économique, clairement, mais qui a permis aussi de diffuser une culture juridique qui a fait progresser des pays. Il y a une deuxième, je vais pas être trop longue, mais il y a un autre cas où là, la puissance, le droit devient vraiment la loi du plus fort, c'est dans les sanctions, la politique des sanctions américaines. dont on en parle beaucoup en ce moment à cause de l'Iran. Alors les sanctions, c'est pareil, ce n'est pas nouveau. Ça a démarré en 1917. C'est Woodrow Wilson qui trouvait que c'était quand même le plus simple pour régler les problèmes avec un pays. C'était le mettre sous embargo. Ensuite, ça a été là, dans les années 60 avec Cuba. Mais il y a eu une démultiplication depuis les 20 dernières années. Aujourd'hui, il y a 30 programmes qui sont de sanctions qui visent des pays et des personnes. Alors les sanctions, c'est pareil, ce n'est pas l'apanage des États-Unis. Il y en a beaucoup qui sont édictées par l'ONU. Il y en a aussi par l'Union européenne. En fait, il n'y a problème que quand il y a désynchronisation, c'est-à-dire que les États-Unis appliquent des sanctions que les autres n'appliquent pas ou se retirent de programmes dans lesquels ils étaient. Alors c'est pareil, là, il y a ce qu'on appelle des sanctions primaires qui normalement, techniquement, ne sont pas extraterritoriales pour les États-Unis puisqu'ils considèrent que il y a trois critères. C'est celui de la nationalité. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est américain, mais coté aux États-Unis, etc. Il y a ce qu'ils appellent le commerce d'un bien d'origine américaine. Et alors, dans leur conception, ça peut être 10% un composant qui compose 10% d'un bien devient américain. Donc là, effectivement. Et enfin, le dernier, c'est l'utilisation du système financier américain, c'est-à-dire toute personne qui utilise le dollar ou que ce soit dans le monde, passe dans le droit, sous le coup du droit américain. Et alors là, la dernière chose, vraiment, on ne peut même plus parler de droit, ce sont les sanctions secondaires. Alors là, il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que les États-Unis décident que vous n'avez pas le droit de travailler avec l'Iran. Il n'y a pas besoin de lien. Simplement, si vous le faites, vous coupez de tout commerce avec les États-Unis. Donc voilà, et là aussi sur les sanctions, ce qui est intéressant, c'est comme pour la corruption, c'est pas seulement l'application du droit, parce que personne ne va jamais jusqu'au tribunal, c'est la construction jurisprudentielle, c'est-à-dire que les entreprises plaident coupables et payent une amende avant d'aller au procès. Et pour l'instant, l'Europe, les autres pays, n'ont pas trouvé de parade. Il y a des pistes. L'Union européenne, la France réfléchissent. Il y a eu des lois de blocage, mais en fait, qui ne fonctionnent pas parce qu'en fait, elles mettent les entreprises entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire qu'on leur interdit d'écouter les États-Unis, ce qui est quand même juste pas possible. Donc ça ne marche pas. Ce n'est jamais appliqué. Il y a actuellement, l'Europe pense aussi à faire une banque de troc pour l'Iran. Mais donc là-dessus, c'est vraiment la loi du plus fort sur les sanctions.
Merci beaucoup. Pour poursuivre un petit peu cette discussion, donc après vos introductions, je vais vous lancer quelques provocations. Vous prendrez ce que vous voudrez. Joël, sur la Cour pénale internationale, vous savez bien ce qu'on dit. Au-delà de vos discours extrêmement subtils et distingués, aucune grande puissance n'est partie à la CPI, hein. Parce qu'on a beau dire, il y a beaucoup de gens qui ont signé le statut, il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie, ce qui fait quand même, en termes de milliards d'humains, pas mal. Deux, la CPI, c'est pour l'Afrique. Hein ? Et trois, elle est absolument absente de ce qui se passe de mal dans le monde. Syrie, absente. Irak, absente. Libye, absente. Bon. Donc, si vous voulez... Alors, je provoque, bien entendu. Hein, mais dans ce cadre-là... Comment pouvez-vous revenir sur l'utilité de la Cour pénale internationale, avec ce codicille qui est que apparemment la Cour essaye maintenant de prouver son utilité en dépassant quelque peu son statut, d'abord par le crime d'agression, je ne dis pas que c'est pas bien, par le crime d'agression, et puis deuxièmement en inventant ou en essayant de créer, par exemple, un crime d'écocide sous la pression des organisations non gouvernementales. Donc est-ce que la seule solution pour la CPI pour prouver son utilité, c'est en réalité de s'occuper de ce qui n'est pas prévu dans le statut.
Alors, il y a plusieurs, dans ce que vous avez dit, plusieurs accroches très tentantes, mais qui feront partir dans des directions très différentes. C'est-à-dire que si on va, moi, c'est un sujet qui me passionne, hein, par exemple, la question de l'écocide et de la création d'un nouveau crime international, mais... la Cour pénale internationale est très loin de se doter de ce nouveau crime, et ça, je ne crois absolument pas à ce qu'elle puisse effectivement poursuivre de tels crimes, même si son procureur, Fatou Bensouda, a essayé, par des déclarations publiques et peut-être par des débuts d'enquête sur des dossiers, de montrer aux ONG qui la soutiennent et auxquelles elle prête attention, que la Cour pourrait se déplacer sur le terrain des crimes environnementaux, d'une part parce que la Cour pénale internationale est la première Cour à s'être dotée d'un crime contre l'environnement spécifique, mais dans le cadre des crimes de guerre. Mais elle a ouvert une porte un petit peu plus large, parce que ce n'est pas tellement dans les situations de guerre que ces poursuites sont aujourd'hui souhaitées, hein, et dans des conditions de paix par rapport à des exploitations de multinationales, etc. Elle a essayé d'ouvrir la porte en disant que peut-être ça pourrait rentrer dans une qualification de crime contre l'humanité, c'est-à-dire d'attaque systématique ou généralisée contre une population. Mais... Elle a fait ses déclarations datent d'il y a plus de 4 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, et le dossier, disons, un peu phare autour de quel, qui n'est jamais allé au niveau de l'examen préliminaire auquel on pensait, c'était celui du Cambodge. Et encore une fois, on n'est jamais monté, ne serait-ce qu'à l'examen préliminaire.
Donc, je peux vous poser une question là-dessus. Est-ce que, d'après ce que je, pour qu'on comprenne bien, la Cour pénale internationale peut, par sa jurisprudence, étendre la surface de ses saisines possibles? Ça se passe comme pour un tribunal national. Par exemple, le Conseil constitutionnel en France a interprété la Constitution de manière un peu plus large que c'était prévu dans les textes au début. La Cour pénale internationale, ça fonctionne un peu comme ça, ou est-ce qu'elle est tenue par l'Assemblée des États?
Non, alors elle est
pour comprendre.
Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Elle est pas libre de faire tout ce qu'elle souhaite, mais elle est effectivement dotée d'un statut qui, notamment parce qu'il est le résultat de tractations entre des pays de cultures juridiques elles-mêmes très différentes, hein, et qui ont bien dû se mettre d'accord sur des notions communes, et elles n'ont pu le faire d'une certaine manière qu'au prix de certaines ambiguïtés de départ qui sont là. Constructives, si on veut. Constructives au départ, parce qu'elles permettent de se mettre d'accord. Alors, ce n'était pas la totalité des États, puisque, comme vous l'avez rappelé, deux grands États n'ont pas adhéré au statut de Rome, mais un certain nombre d'États qui ont quand même ratifié assez vite et qui ont permis à la Cour de se mettre en place assez vite, se sont mis d'accord sur ce statut au prix d'ambiguïté juridique constructive. Et donc aujourd'hui, il appartient au juge, d'une certaine manière, aussi d'interpréter. Et selon l'interprétation qu'il va en donner, évidemment, ils se donneront des libertés ou pas. Alors, ils peuvent s'appeler dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, dans un sens où, effectivement, on n'attendait pas la Cour pénale internationale, j'ai parlé tout à l'heure de la Birmanie, le procureur a tenté auprès des juges, puisqu'il lui fallait l'accord des juges de la chambre préliminaire, d'interpréter un des crimes dont elle est dotée, le crime de déportation, qui est un crime pour les Rohingyas, en faisant valoir qu'un crime de déportation était un crime spécifique qui, contrairement à d'autres crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, ne se commettait pas sur un territoire, mais sur deux territoires, le territoire de départ et le territoire d'arrivée. Et dans la mesure où les Rohingyas ont été déportés vers le Bangladesh, qui lui est apparti, cela donnait du coup une compétence à la Cour pour rentrer dans ce dossier-là. Les juges, ils auraient pu ne pas suivre le procureur. Bon, ils l'ont fait. À l'inverse, le procureur souhaite ouvrir sur le dossier Afghanistan une enquête. Il a pour ça des éléments, disons, suffisants, les juges le reconnaissent, hein, au niveau des éléments rassemblés sur la pertinence à aller vers un procès en termes de preuves, des preuves minimum rassemblées pour aller vers un procès, en termes de volonté des victimes, puisqu'elles sont grand nombre, elles se sont manifestées auprès de la Cour, mais ils ont fait valoir que leur interprétation à eux des intérêts de la justice que doit poursuivre la Cour imposait que la Cour ne se lance pas dans une aventure dont, manifestement, elle n'arriverait pas au bout, et que les conditions, y compris donc sous-entendu les conditions politiques, et donc l'opposition des États-Unis à la Cour, dressaient une barrière telle que la Cour n'arriverait pas effectivement jusqu'au procès. C'est sa manière, c'est la manière dont ces juges ont interprété les intérêts de la justice. Le procureur le conteste, et le conteste aujourd'hui en appel. Hein, peut-être qu'on aura une décision qui va casser d'une certaine manière cette première décision sur l'Afghanistan. Mais voilà, donc oui, bien sûr, on est dans l'interprétation, et l'interprétation permet plus ou moins... Après, ça ne donne pas un semblant ni au procureur ni à la Cour, qui reste relativement encadré par l'Assemblée des États-partis. Et je dirais que l'audit lancé par l'Assemblée des États-partis aujourd'hui pour répondre à la crise de la Cour est une manière aussi pour les États de reprendre un peu la main sur la Cour.
Merci. On va revenir là-dessus. Barion Leblanc, alors c'est votre distinction est fort utile et très intéressante entre, d'une part, la lutte contre la corruption, où, si j'ai bien compris, là, les États-Unis ont bien fait. Vous avez surtout parlé des Européens. Rassurez-moi, il n'y a pas que les Européens qui sont corrompus dans le monde.
Enfin,
il faut bien dire qu'ils étaient les plus corrompus, d'accord. Non, vous allez le dire. Non. Et puis, alors après, il y a les sanctions. Alors les sanctions, si j'ai bien compris, c'est beaucoup plus clair. C'est à la limite de la simplicité. Hein. Des sanctions, c'est l'unilatéralisme appuyé par la puissance. Hein. Ce que vous notez ou ce que vous dénoncez, c'est effectivement le fait que les sanctions américaines sont des sanctions unilatérales. Hein, il y a des sanctions américaines qui sont tout simplement les sanctions prises dans le cadre de l'ONU, hein, qui sont des sanctions consensuelles. Hein. Mais les sanctions auxquelles on s'accroche ce soir, ce sont des sanctions unilatérales et qui sont appuyées par toute la puissance, politique des États-Unis. C'est bien ça. Hein, et qui sont donc là de purs instruments de puissance. De purs instruments de contrainte.
Politique et économique, surtout.
Oui, bien sûr. Économique, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas... On parle beaucoup d'extraterritorialité, et vous-même vous en parlez, mais est-ce que c'est pas tout simplement le dollar qui est au centre géométrique de l'ensemble de la vie, enfin, d'une grande partie de la vie économique du monde, et à partir du moment où ça passe par le dollar...
À partir du moment où le dollar est utilisé comme définition d'un lien avec les États-Unis, que quasiment 90% des opérations de change dans le monde sont faites en dollars, que 80% des échanges ont lieu en dollars, effectivement, ça, en fait, c'est la puissance économique américaine qui leur permet d'avoir une puissance telle en termes de sanctions et d'appliquer leurs sanctions unilatérales. Effectivement. Et ça paralyse les entreprises, ça paralyse les banques. On peut voir en France l'amende qu'a eu BNP il y a quelques années pour violation d'un embargo au Soudan, effectivement, a tellement paralysé les banques que maintenant, dans leur contrat, elles mettent une clause que l'entreprise doit internaliser le droit américain, la compliance américaine, pour pouvoir demander un crédit à la banque. Et toutes les banques le font, hein. En fait, les entreprises internalisent le droit à l'américaine, c'est-à-dire non seulement tout ce qui est la compliance au sens large, en fait, la culture de la conformité, mais les programmes des embargos.
Mais ce qui est très intéressant, ce que vous dites, c'est que les sanctions ont une apparence juridique. Et en réalité, elles ont une réalité qui est quand elles sont unilatérales américaines, elles ont une apparence juridique et une réalité qui est une pure manœuvre de puissance, en réalité.
Ah ben ça, c'était les sanctions. C'est vraiment la politique extérieure des États-Unis qui est appliquée. Alors oui, il y a des textes réglementaires qui sont donc faits par l'OFAC aux États-Unis, mais... c'est d'autant plus, c'est pas forcément juridique, puisque ça ne va jamais au procès. C'est à la fois, ça peut être des poursuites pour les entreprises qui ont violé les sanctions, et c'est surtout l'internalisation du droit américain par les entreprises dans le monde entier, pour le coup. Hein.
Alors, vous expliquez de manière très intéressante dans votre article que ce dissensus entre les Européens et les Américains sur les sanctions, c'est déjà arrivé dans l'histoire plusieurs fois. C'est surtout arrivé dans les années 90. Je crois que c'était à propos de Cuba ou de renforcement de l'embargo sur Cuba, qui est l'exemple, j'allais dire, admirable, permanent de la politique unilatérale américaine. Et vous expliquez que dans les années 90, les Européens avaient réussi à résister. Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, on avait réussi à résister et à dire non ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on dit oui, même pas explicitement. Enfin, je veux dire, on est en train de s'asseoir et de se coucher devant la volonté unilatérale concernant l'Iran des États-Unis. C'est clair.
Eh bien, là, sur la différence, c'est la taille du pays et surtout l'internationalisation des entreprises depuis. Quand on prend l'Iran, là...
Mondialisation.
Mondialisation. Quand les États-Unis ont quitté donc, l'accord multilatéral et rétabli les sanctions, y compris les sanctions secondaires, c'est-à-dire sans aucun lien, tous les pays, notamment toutes les entreprises, notamment françaises, qui étaient revenues en Iran, Total, avaient décidé de développer un projet. Peugeot y était, et Renault, Air France avaient repris ces vols. Total avait un projet qu'ils finançaient sur leurs fonds propres, c'est-à-dire qu'ils n'empruntaient pas aux banques et ils ne le faisaient pas en dollars. Et bien, le jour où les États-Unis sont repartis, ils n'ont pas menacé ces entreprises. Elles sont parties toutes seules, immédiatement. En fait, c'est vraiment la peur du marteau, en fait.
D'être bloqué aux États-Unis.
C'est la peur, voilà, des poursuites futures.
Vous voulez dire quelque chose, Joël Boss ?
Oui, parce que d'une certaine manière, la Cour pénale internationale, elle déploie aussi cet affrontement entre l'Union européenne et les États-Unis, puisque l'Union européenne est d'ailleurs une organisation régionale qui a passé un accord de collaboration avec la Cour pénale internationale. Et tous les pays membres de l'Union européenne ont adhéré à la Cour pénale internationale. Et donc, on a comme ça cette forme d'opposition qui est en partie réelle, mais qu'il faut bien sûr nuancer, d'une part, parce que, d'une certaine manière, il y a chez les Américains à la fois une forme de permanence vis-à-vis de la justice pénale internationale. Ils en ont été à la fois je dirais pas les créateurs totalement, parce que la pensée juridique pour la mise en place d'une juridiction pénale internationale, elle a d'abord été européenne. Mais c'est eux qui, avec Nuremberg, quand même, ont mis en place concrètement le premier tribunal qui est très différent et qui fonctionne très différemment de la Cour pénale. Mais voilà. Et la permanence, elle est qu'ils ont toujours soutenu des juridictions pénales internationales qui ont des mandats ciblés et qui ne pourraient pas mettre en cause leurs propres ressortissants. C'est une politique de puissance, d'une certaine manière, on peut dire. Ils veulent pouvoir imposer aux autres une justice qu'ils ne veulent pas eux-mêmes se voir retourner contre eux.
Il faut aussi pour défendre les États-Unis sur qui il faut aussi expliquer que les États-Unis sont, de par leur statut d'hyperpuissance, comme dirait Hubert Védrine, extrêmement exposés, en particulier par la projection de leurs forces armées, qu'ils ont des militaires dans je ne sais combien de bases et je ne sais combien de crises internationales, et qu'ils ont donc peur, pour employer un langage très 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 simple, ils ont donc peur qu'à l'occasion d'une ou de plusieurs de ces interventions officielles ou non officielles, puisqu'on sait que maintenant tout n'est pas officiel, il soit traduit devant la justice internationale. C'est ça la raison fondamentale.
C'est une préoccupation de puissance, d'une certaine manière, qui à sa mesure était partagée par la France, mais qui a finalement réagit différemment, c'est-à-dire partagée, puisque elle-même a voulu d'une certaine manière se protéger et mettre des remparts au sein du statut par un article qui exonérait la France, qu'il avait signé, de poursuites de crimes de guerre. C'est le terrain sur lequel elle se sentait vulnérable. Je ne pensais pas qu'on pourrait la poursuivre pour des crimes contre l'humanité, mais crimes de guerre, elle a des soldats déployés sur les terrains notamment africains, et elle craignait, enfin le ministère de la Défense craignait effectivement que des affaires soient montées contre la France. Et donc la France a, d'une certaine manière, imposé dans la négociation la mise en place d'un article exonérant les pays qui le signeraient, elle a été le seul à le faire avec la Colombie finalement, qui exonérerait cet État parti de poursuites de crimes de guerre pendant 7 ans. C'est pour dire que les réflexes de puissance, à leur mesure, d'une certaine manière, sont partagés. Je cherche bien à nuancer en disant que les Américains ont apporté beaucoup à la justice pénale internationale, ils l'ont apporté beaucoup en termes aussi de procédures. Là aussi, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je dirais pour le meilleur, parfois en intégrant y compris des types de procédures dont vous avez rappelé l'importance, c'est-à-dire le plaidoyer coupable, qui ne fait qu'on ne va pas au procès.
Qu'on a adopté en France.
Et qu'on a adopté en France, bien sûr.
Adopté.
Oui,
Mais, oui, non, enfin, c'est le même.
C'est la même logique. Ouais, et en tout cas, cette logique-là, il l'avait, par exemple, impulsée au tribunal pour les Yougoslavies. Ça a été très mal compris. Mais on voit avec le recul que malgré tout, ce qui, en termes d'aveu à ce moment-là, et de collaboration, même si ce n'était pas très sincère, même si ce n'était pas très volontaire, des accusés dans ces plaidoyers coupables ont apporté dans le bilan de ce tribunal des choses positives. Il y a eu un plaidoyer coupable qui a été fait à la Cour pénale internationale pour le Mali, pour la destruction des tombeaux de Tombouctou. Bon, c'est des types de procédures qui sont héritées du droit américain. Par contre, négativement, deux choses. Ce droit anglo-saxon s'avère quand même assez mal adapté en termes de longueur de procès. Quand on va au procès, justement, on a ces procès qui sont ces procès longs, qui sont ces procès... Et alors, parce que ça assure aussi des droits à la défense, mais qui sont des procès qui deviennent tout de même illisibles. Et ça, c'est quand même un vrai problème pour la justice pénale internationale, c'est que ces procès sont des procès illisibles. Et donc, même si on arrive à des condamnations, même si on condamne un Karadzic, même si on condamne un Mladic, même si... les procès en eux-mêmes, la population n'arrive pas à les suivre. Et puis l'autre chose, c'est que derrière cette permanence des États-Unis, on impose un droit qu'on ne veut pas s'appliquer à nous-mêmes, donc on sort de la réciprocité, de l'égalité. Bon, c'est ça la puissance d'une certaine manière. Mais cette puissance, il l'avait quand même utilisée pour mettre en place le système multilatéral hérité de 1945. Et c'est ce système multilatéral qu'aujourd'hui, il détricote. Des tricotes et dont ils sortent. Et c'est ça ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'eux-mêmes sont en train de détruire l'architecture de droit global qu'ils avaient mis en place. Et c'est très net, ils ne sont pas les seuls à le faire parce qu'ils sont bien aidés par les autres puissances, par la Russie, par la Chine d'une certaine manière, mais la Russie de manière très nette au sein du Conseil de sécurité où les rapports avec la Cour pénale internationale sont complètement... sont piégés, quoi. On peut après développer si vous voulez, mais ce rapport du Conseil de sécurité à la Cour pénale internationale, en termes de puissance, est évidemment un symptôme assez lourd du moment de crise dans lequel on est.
Oui, je voulais juste... En fait, j'avais pas répondu à la première partie de votre question tout à l'heure sur est-ce qu'il y avait que les entreprises européennes qui étaient corrompues. Alors en fait, effectivement, pas du tout, mais simplement... Les États-Unis ont commencé par les entreprises européennes. C'est clair. C'était les entreprises qui étaient les plus internationalisées à l'époque, au début des années 2000, et qui étaient aussi leurs concurrents sur les autres marchés. Les entreprises européennes, enfin les pays européens sont mis à niveau, et les États-Unis ont maintenant ciblé réellement la Chine et la Russie. Et alors, avec Trump, c'est plus simple, il est vraiment transparent. Il a expliqué l'année dernière que maintenant, le FCPA, donc le test contre la corruption, il y aurait une China Initiative, donc une initiative Chine qui visait réellement à poursuivre les entreprises chinoises. Ils s'en prennent maintenant aussi aux entreprises russes. On a vu l'année dernière le cas de Rusal, donc, où le directeur général a été poursuivi et qui a fait chuter le cours de la société, le cours de l'aluminium. Enfin, ça a provoqué immédiatement un désastre au niveau économique. Donc oui, non, c'était pas maintenant. Il n'y a pas un biais européen. Il y avait un biais européen. Maintenant, le biais est vraiment mondial.
Donc c'est chacun son tour. avant de passer la parole à nos amis de la salle, juste une petite question qui va vous faire sortir un peu de ce dont on a dit jusqu'à présent. Est-ce que le fait que les GAFA contrôlent, sont au cœur de la société informationnelle qui est la nôtre aujourd'hui, est-ce que le fait que ces GAFA soient américaines, qu'est-ce que ça implique ? Une fois encore, dans ces procédures de contrôle de l'information et d'extraterritorialité du contrôle de l'information.
Alors là, on sort un petit peu du droit.
On sort un peu.
En même temps que l'année dernière, les États-Unis ont donc édicté le Cloud Act, qui est donc un texte législatif qui explique que justement les autorités américaines peuvent demander... Oui. À tous les GAFA, donc les Google, Microsoft et autres, enfin Apple, de donner accès aux données qui sont hébergées sur leurs serveurs.
C'est-à-dire pas seulement les données américaines, évidemment.
Voilà, puisque les serveurs, il y en a plein, il y en a dans le monde entier. Donc effectivement, oui, ça a un impact.
Et de mon côté, il est vrai que les GAFA sont loin de devoir répondre de quoi que ce soit auprès de la Cour pénale internationale, mais en tout cas, l'enjeu du réseau Internet est fondamentale pour la Cour, à la fois en termes de publicité de sa propre action, puisque c'est une Cour qui est à la haie, qui est bien trop loin pour les victimes et auxquelles on a des groupes scolaires qui viennent voir les procès, etc. Mais la couverture, la publicité des procès se fait par des transmissions Internet. Alors encore une fois, après, les procédures sont très illisibles, il y a beaucoup de témoins protégés, il y a beaucoup de coupures, etc. Mais il y a une politique de diffusion à travers Internet qui est importante. Et puis, on a de plus en plus de preuves qui sont des preuves numériques, qui sont aussi un nouveau type de preuve, alors qui nous, d'une certaine manière aussi, nous éloigne du terrain africain où on a plus l'habitude de preuves essentiellement basées sur des témoignages, où on a encore peu de captation, mais il y a d'autres terrains aujourd'hui, par exemple le terrain syrien, alors qui ne concerne pas directement la Cour pénale internationale, mais où beaucoup de crimes ont été filmés. Cette couverture des crimes, cette intégration dans les dossiers du procureur des éléments de preuve audiovisuels et numériques, leur conservation, bon, tout ça, ce sont des enjeux qui sont aussi des enjeux très importants pour la Cour.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous nous avez écoutés très sagement. Soyez-en remerciés. Je vous en prie, si vous avez des questions ou des interpellations, monsieur, je vous en prie.
Bonsoir, merci pour cette présentation. Je suis auditeur en intelligence économique, hein, monsieur Stombly. Je voulais apporter une petite précision sur le cloud out. C'était venu aussi pour parler de droit dynamique en réaction à la loi RGPD que l'Europe avait votée. Donc ceci explique cela. La petite précision que je voulais apporter, c'est que les Américains sont aussi très durs avec leurs entreprises. Il ne faut pas oublier que Trump a mené une guerre assez sévère envers les GAFA. Et dernièrement, Apple vient de céder sur l'exigence de décryptage des données pour les enquêtes du FBI. Cela veut dire qu'ils savent faire la chasse contre nous, mais ils savent aussi chasser en interne. La petite question que je voulais vous poser, c'était pour vous réunir d'ailleurs tous les deux sur le sujet. Il me semble que l'ancien président soudanais va être poursuivi par la CPI. Alors vous, ah, peut-être pas.
On
va en parler. Mais il me semble qu'il y a une banque française qui a été aussi condamnée dans cette affaire. J'aimerais avoir votre avis sur la relation de cause à effet entre l'extraterritorialité d'une amende qui concerne non pas un cas d'embargo, puisque cette même banque risque d'être poursuivie pour génocide et financement du terrorisme. Donc je voulais savoir aussi votre avis, est-ce que la CPI peut intervenir aussi dans ce cadre-là, dans ce qu'on parle de responsabilité morale des entreprises, mais on n'a jamais parlé, et on n'a pas vu encore, dans le PD coupable, de responsabilité individuelle. Merci.
Alors, pour Béchir, alors effectivement, Béchir est poursuivi par la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour génocide au Soudan. Mon signe négatif était juste pour dire qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'extrader Béchir vers la haie. Donc, Béchir a été mis en inculpation par la Cour alors qu'il était encore un chef d'État en exercice, ce qui, en soi, est une configuration qu'on avait déjà eue avec Milosevic, mais qui était une démonstration de force, d'une certaine manière, à ce moment-là, du procureur, qui, justement, passait dans une deuxième phase de son mandat, après avoir un peu montré aux États qu'il savait rester prudent. Là, il se rapprochait, d'une certaine manière, enfin, il n'allait pas à l'encontre des désirs des États-Unis, en mettant en cause Béchir, mais il le faisait, en s'en prenant à un chef d'État en exercice sur un crime qui est quand même pas non plus le plus petit crime que peut poursuivre cette cour. Bon, résultat, Béchir, il a pu voyager à peu près comme il l'entendait sur le continent africain,
y compris dans des pays adhéré au statut
d'État parti. Et finalement, ça a ouvert au sein de l'Assemblée des États partis il y a le dossier kényan aussi qui était connecté à cette crise, mais ça a débouché sur une crise au sein de l'Assemblée des États partis, sur un point très précis qui est effectivement, il y a encore un point d'achoppement, alors que ces États africains ont signé le statut de Rome qui très clairement n'accorde aucune immunité à un chef d'État en exercice. Sur ce point précis quand même du statut du chef d'État, reste clairement un problème qui n'est pas une évidence. Et par ailleurs, après, il y a des obligations vis-à-vis de l'Union africaine dans le cadre de ce qui est organisé par l'Union africaine, du déplacement des chefs d'État, etc. Bon, qui fait que les choses n'ont pas été simples. Bon, il se trouve que Béchir a été renversé à la fois par un soulèvement d'abord populaire et puis après par un coup d'État militaire. Et donc, évidemment, la première dynamique est venue à la suite de la seconde. La seconde est venue à la suite de la première, mais n'est pas tout à fait du même ordre. Et notamment, elle n'est pas tout à fait du même ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des militaires qui se sont accordés avec des représentants civils pour mettre en place une transition, mais pour mettre une transition avec des bornes. Et il ne s'agirait pas, évidemment, de mettre en cause des militaires eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait dans le passé au Darfour. Et donc, Béchir a été renversé, mais il n'a jamais été question de l'extrader à la haie. Il a été poursuivi pour un crime de détournement et de fonds. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un projet pour le poursuivre sur des crimes au Darfour, mais devant une cour nationale, dont on s'imagine bien qu'elle va justement savoir savamment délimiter le périmètre pour ne pas, ne pas échauffer les esprits du côté des militaires. Et justement, aucun des, alors que Fatou Bensouda l'a demandé à plusieurs reprises, aucun État du Conseil de sécurité, alors que le Conseil de sécurité a saisi la Cour pénale internationale sur le dossier du Soudan, puisque le Soudan est un État non parti, n'a à aucun moment donné fait pression pour que Béchir, même une fois renversé, soit extradé vers la haie.
Petite précision, si, ce qui n'arrive pas, si un inculpé est jugé par une cour nationale, il ne peut pas être jugé au même moment par la Cour pénale internationale pour le même crime.
Non. Effectivement, ça c'est d'ailleurs un point de droit. On n'est pas jugé deux fois à deux endroits différents pour les mêmes types de crimes. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, la Cour fonctionne sur un principe de complémentarité qui donne la priorité aux juridictions nationales. La Cour pénale internationale n'intervient que si une Cour ne veut pas ou ne peut pas juger elle-même ses crimes. Et dans le cas du Soudan, le Soudan est un État parti. Aujourd'hui, il manifeste la volonté, d'une certaine manière, de poursuivre les crimes de Béchir en mettant en place cette cour. C'était pas le cas avant. Ça signifie pas que la Cour pénale internationale va se désister, parce que pour se désister, il faudrait que le dossier soit un dossier pour génocide, pour les mêmes crimes.
Ce soit les mêmes inculpations.
Et voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, pour Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui a été poursuivie par la Cour pénale internationale, Ouattara a évidemment l'extradition de Laurent Gbagbo a été faite, mais Simone Gbagbo, son épouse, était aussi poursuivie par la Cour et elle n'a pas été extradée vers la haie. Et elle a été poursuivie en Côte d'Ivoire. Elle a été jugée, condamnée, puis graciée. Mais les juges de la Cour ont toujours estimé que les poursuites qui étaient en Côte d'Ivoire n'étaient pas les mêmes que celles qui étaient prévues devant la Cour et que donc l'extradition devrait toujours tenir.
Pas de commentaire. Une autre question.
Il y avait peut-être juste les entreprises, si vous permettez.
Il y avait la banque.
Non. Oui, voilà, c'est ça pour les personnes morales. Alors effectivement, la justice pénale internationale, c'est d'abord mise en place, enfin, son apport historique, ça a été d'une certaine manière d'aller derrière la façade étatique, chercher des responsabilités individuelles de responsables ou d'exécutants qui ne pourraient pas se protéger derrière une immunité de poste étatique ou bien derrière un ordre de nature étatique. Mais la poursuite des entreprises, des personnes morales, bon, il y a eu des poursuites de dirigeants d'entreprises à Nuremberg. C'est vrai que c'est pas le terrain sur lequel les juridictions pénales internationales se sont déplacées. Souvent, d'ailleurs, ce seraient des crimes qui, probablement, si on allait vers des qualifications, seraient des qualifications de complicité. Et la qualification de complicité a plutôt été, en général, dans les procès, une qualification par défaut, c'est-à-dire qu'au départ, on avait un accusé sur lequel on voulait mettre sur le dos une poursuite pour sa responsabilité directe, et c'est par défaut qu'on allait vers la complicité. Et le terrain de la complicité, qui est un vrai terrain de poursuite et de questions sur les crimes de masse, et peut-être faute de moyens d'une certaine manière, peu investi par la justice pénale internationale, mais probablement, c'est un chantier qui est devant elle. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, il faudrait d'abord qu'elle montre quelques capacités, disons, déjà à aller sur les terrains des échelons les plus élevés, parce que la Cour pénale internationale, elle a réussi à condamner des chefs de commando ou des chefs de milice. Elle a fait chou blanc sur tous les responsables politiques de plus haut. Tous les hauts responsables.
Oui, justement, sur la responsabilité individuelle, dans la lutte contre la corruption, justement, les États-Unis, eux, n'ont pas hésité à arrêter des individus, et souvent des individus pas très élevés dans la hiérarchie, pour faire pression sur les entreprises. C'est le cas de l'affaire Alstom, on en a beaucoup parlé. Frédéric Peyrucci a écrit un livre sur le sujet. Il s'est fait arrêter à la descente de l'avion, et ça a démarré les poursuites sur Alstom, et le département de la justice en a fait vraiment un objet de pression sur l'entreprise qui, il faut bien le dire, l'a complètement lâché. Donc, ce qui était une tragédie humaine. Mais donc là, il y a d'autres hommes d'affaires qui se sont fait arrêter et c'est vraiment c'est un élément important dans les poursuites contre l'entreprise.
Mais les entreprises, si on s'interroge aujourd'hui sur la puissance dans le monde, effectivement, les multinationales apparaissent de plus en plus comme des acteurs de puissance, parfois plus puissants que les acteurs politiques. Et évidemment, on leur, donc, d'une certaine manière, dans certaines franges de la population, des opinions publiques, la pression augmente pour que
questionnent
leur
responsabilité,
voilà, et y compris donc pour les crimes internationaux, qu'effectivement, on se déplace d'une lecture des crimes internationaux comme des lectures, comme des crimes étatique ou de nature étatique ou politique, et qu'on aille vers des crimes, vers les responsabilités des acteurs économiques et vers des crimes économiques. Et dans le cas, évidemment, on en avait parlé avant, on l'avait évoqué pour les crimes environnementaux, c'est très clair. C'est plutôt, les ONG ont plutôt dans leur viseur des multinationales plutôt que des responsables politiques. Elles peuvent aussi avoir des responsables politiques, mais les multinationales occupent effectivement une place sur l'échiquier mondial qu'elle n'avait
de la puissance.
Avait, ouais, de la puissance, qu'elle n'avait pas avant.
Une autre question ? Oui, là-haut, s'il vous plaît. Mademoiselle.
Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais revenir sur la notion de collaboration avec les États et les juridictions nationales avec la CPI. Et du coup, je me posais la question du problème qu'on a sur la sémantique. Puisque en fait le statut par le biais ensuite des éléments des crimes qui vient préciser les termes du statut, c'est quand même déjà assez fourni. Mais si on prend l'exemple français qui est le problème typique des différences sémantiques, la loi française a ajouté la notion de plan concerté dans la définition du crime de génocide, qui pose d'énormes problèmes dans le cadre des procès qui se déroulent au niveau des juridictions françaises, puisque finalement, je prends l'exemple du Rwanda, c'était sur les tribunaux pénaux internationaux, donc pas la CPI, mais les définitions sont les mêmes, et du coup on se retrouve en fait avec une justice un peu avec deux poids deux mesures sur des problèmes de sémantique. Et j'avais aussi une question sur vous avez un petit peu répondu, mais sur la responsabilité des personnes morales, est-ce que finalement on voit que les crimes poursuivis par la CPI sont toujours par la jurisprudence précisés, notamment l'exemple récent qui me vient en tête, c'est le viol comme crime de guerre qui a enfin été reconnu comme tel alors que précédemment non. Est-ce que finalement sur les crimes économiques les juges ne ce serait pas leur rôle aussi d'introduire dans la définition des crimes des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, ces notions de crimes économiques, un peu comme nous on aurait le financement du terrorisme en France, qui est une infraction à part entière en fait.
Alors, la définition du génocide et les crimes économiques.
Effectivement, disons, les crimes, même la notion de génocide, hein, on l'a vu au Canada, où elle a été appliquée sans être celle qui est celle du statut de Rome. Effectivement, les juridictions peuvent avoir des définitions différentes des crimes. Malgré tout, le statut de Rome a quand même, y compris en France, hein, avec la loi d'adaptation de 2010, a quand même tendu vers une certaine homogénéisation par l'intérêt internalisation du statut, et donc elle n'est pas parfaite, effectivement, sur la définition du génocide, sur certains crimes de guerre, qu'on a aussi, on n'a pas intégré non plus, non. Il y a quand même, disons, un mouvement d'uniformisation. Et puis, il y a aussi, surtout, une forme, disons, de dialogue peut-être qui peut s'instaurer des juges, y compris je pensais au procès Rwanda que vous évoquiez en compétences universelles qui ont été conduits en France, où la jurisprudence ou ce qu'a produit le tribunal pénal international pour le Rwanda a quand même été prise en compte très largement par les juges français. Et mais peut-être que certaines définitions facilitent aussi à d'autres moments, en étant différentes, que celles du statut de Rome faciliteront pour d'autres cas les poursuites. En tout cas, ce qui est très important de souligner, vous me permettez de le faire, c'est qu'effectivement, la Cour pénale internationale s'inscrit dans le cadre d'un statut beaucoup plus large, et que ce statut, par la complémentarité, on l'a dit, où justement les juridictions, les États et les juridictions nationales sont prioritaires vis-à-vis de la Cour lorsqu'elles veulent et lorsqu'elles peuvent, elles ont donc une responsabilité dans la poursuite des crimes internationaux. Et on a là une dynamique qui ne met pas du tout de côté les juges nationaux. Et d'une certaine manière, aussi parce que la Cour pénale internationale est un peu bloqué sur certains dossiers, on assiste à une remontée des juges nationaux, à la fois par la constitution de pôles spécialisés, comme on l'a fait en France, et puis parce qu'on a peut-être tourné la page de la compétence universelle telle que la Belgique l'avait mise en place à la fin des années 90. Et donc on assiste effectivement à ce retour des juges nationaux. Et les Américains, de ce point de vue-là, rejouent un rôle qui peut être positif, puisqu'ils soutiennent le mécanisme qui a été mis en place par l'Assemblée générale de l'ONU en réaction à un blocage du Conseil de sécurité par les Russes pour poursuivre les crimes en Syrie par la Cour pénale internationale. Et donc un mécanisme d'enquête, de collecte de preuves a été mis en place. Les Américains le soutiennent. La France le soutient aussi. Espérons qu'on va en bénéficier. Et donc il y a tout à fait une articulation entre le niveau national de poursuite des crimes internationaux et le niveau international, qui parfois est contradictoire et puis parfois se combine et va ensemble. Et je ne veux pas être trop long, mais il y avait donc sur les entreprises encore, de nouveau, c'est moi là ce que je dirais très rapidement, c'est que on le voit pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale, de toute façon, elle est très limitée dans les dossiers qu'elle va pouvoir ouvrir. Donc effectivement, il y a un choix stratégique dans les dossiers qui sont effectivement ouverts, puisqu'ils seront peu nombreux. Donc ils doivent être emblématiques. Et donc je suis tout à fait effectivement favorable à ce que cette dimension-là soit prise en compte. De fait, aujourd'hui, elle ne l'est pas. Mais on voit en République démocratique du Congo que d'autres types de démarches de justice transitionnelle, avec la mise en place par un artiste belge, je crois, d'un tribunal spécial qu'il a monté lui avec des juristes, en allant sur place et en montant un procès entre guillemets fictif, donc avec pas derrière un verdict évidemment de nature juridique qui s'imposerait, mais qui posait la question de la responsabilité des multinationales dans l'extraction des minerais sur place, et donc qui cette économie de guerre qui se met en place et qui est tout à fait fondamentale. On ne comprend pas les crimes en Ituri si effectivement on se penche pas sur les intérêts économiques qu'a cette région. Et donc là, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il y a d'autres mécanismes, d'autres dynamiques, celles de la justice transitionnelle en particulier, elles doivent compléter ce que fait la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale fait des poursuites, pas d'entreprises morales, d'individus, mais il y a des responsabilités collectives. Elle poursuit des crimes qui sont plutôt des crimes de nature, disons, politique, plutôt qu'économique, mais la justice transitionnelle peut permettre de poser des responsabilités plus collectives, peut aller sur le terrain économique, et ce n'est pas une sous-justice. C'est très important, c'est pour ça, d'avoir cette vision de la Cour pénale internationale dans cet ensemble plus vaste. Et on renforcera la Cour pénale internationale en renforçant d'autres mécanismes que les siens.
Merci. Pour s'acheminer vers la conclusion de notre débat, Marion Blanvoret, je voudrais vous poser une question peut-être un peu plus politique. Cette instrumentalisation, quand même quand même assez brutale, juridique par l'administration Trump. Est-ce qu'elle est purement opportuniste ? Vous avez décrit, d'abord c'était contre les entreprises européennes, maintenant c'est contre les Chinoises, on va viser les Russes, etc. Est-ce qu'elle est purement opportuniste ou est-ce qu'elle est vraiment stratégique ? Vous avez en même temps dessiné une certaine continuité entre, pas dans les sanctions, mais entre la politique de l'administration Obama, l'administration Trump, etc. Est-ce que c'est véritablement un choix stratégique des États-Unis, auquel cas il faut s'attendre à ce que ça dure ?
Ah oui, je pense que ça va durer. Alors, je disais, c'est pas notamment la lutte contre la corruption, ça ne date pas de Trump. Ça date vraiment de l'administration, enfin, après les attentats du 11 septembre, et ça a vraiment démarré avec l'administration Obama. Quand le lien a été fait entre corruption et financement du terrorisme. Donc là, il y avait une vision plus, moi, je dirais pas stratégique. Avec Trump, c'est réellement. Ça utilisé en termes stratégiques pour affaiblir la Chine. Ça, c'est clair. À partir du moment où ils en font leur cible principale, c'est parce qu'ils sont dans une guerre qui n'est pas seulement commerciale, c'est une guerre pour la domination mondiale. C'est une guerre, on le voit au niveau des télécoms, avec toutes les histoires sur la 5G et Huawei. C'est vraiment là une vision complètement stratégique du monde. Et c'est là où ils utilisent le droit, mais aussi ils utilisent tout ce qui est à la bataille commerciale, les tarifs. Les tarifs, etc. C'est vraiment stratégique.
Bien. Mesdames, messieurs, si aucune question ne... Si, ah pardon, excusez-moi, monsieur, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie.
Oui, j'ai deux petites questions. C'est pour relancer à ce qui...
Parlez bien dans le micro.
Oui, pour relancer ce qui vient d'être dit. Au cas où la juridiction nationale ne satisferait pas le jugement d'une juridiction nationale, serait un peu, on va dire, complaisante, entre guillemets, très complaisante, je pense naturellement au Soudan. Est-ce que la CPI peut renchérir, c'est-à-dire refuser un jugement national et renchérir, et quand même décider de juger ? Et ma deuxième question, je fais les deux questions rapidement. Et la deuxième question, le titre de l'émission, la loi du, enfin le titre de ce soir, la loi du plus fort. Que devient-il au niveau mondial si la loi se conjugue au pluriel des plus forts ? Donc, dans le cas où la Chine dépasse au niveau économique les États-Unis, je fais un peu de prospection. Que deviennent les relations internationales dans ce cas-là, puisqu'à ce moment-là, elle peut appliquer exactement le même type de processus que les États-Unis. Alors comment réagirait nous entre deux, l'Europe ? Est-ce qu'on a déjà éventuellement commencé à penser à ce genre de processus ?
Sur ce dernier point, c'est typiquement, enfin je vais vous laisser répondre, mais c'est typiquement le problème stratégique auquel nous nous trouvons confrontés, nous, Européens. Est-ce que on va arriver à se penser une place autonome dans un monde où deux éléphants se battent par-dessus notre tête ? Est-ce qu'on va se décider à devenir un éléphant ou un autre animal qui pourrait leur résister ? Ou est-ce que finalement on les laisse se débrouiller ? Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer tout simplement que, comme on disait dans ma jeunesse, au plus fort la poche. C'est-à-dire quand vous avez deux puissances qui essaient d'avoir la prééminence l'une sur l'autre, eh bien, j'allais dire, les montages juridiques passent sur l'arrière-scène. Et c'est en réalité... Si vous voulez, le droit, il a plusieurs fonctions. Je suis désolé de parler à votre place. Il a une fonction, j'allais dire, d'amodiation ou d'organisation des rapports de puissance, hein, pour les rendre un peu plus civilisés, hein. Mais il faut encore que les puissances acceptent de se faire civiliser. Hein, que ce soit dans leur intérêt stratégique ou par moralité ou par vertu. C'est rarement par vertu, hein. C'est souvent parce qu'ils estiment que c'est leur intérêt, de même que les États-Unis ont estimé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il était de leur intérêt de construire un système multilatéral pour garantir la paix, pour qu'ils ne soient pas en permanence interpellés pour faire la guerre, bien entendu, hein. Donc, si vous voulez, le droit est à la fois un moyen d'amodier les rapports de puissance. C'est un moyen pour les puissants d'être encore plus puissants, incontestablement. Ça, c'est l'instrumentalisation du droit. Et puis, c'est tout simplement, comme je le disais au début, le miroir qu'on promène devant l'état de la société mondiale. Et à ce titre-là, c'est évidemment et éminemment évolutif. Mais ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, donc je vous donne la parole.
Excusez-moi. Non, bien sûr. Pour vous répondre, il y a plusieurs manières par lesquelles un État peut s'opposer à l'action de la Cour. Il peut le faire de manière très frontale, en se retirant du statut, ce qu'a fait le Burundi lorsque une enquête a été ouverte contre lui. Oui. Il peut aussi refuser l'accès de ces territoires aux enquêteurs de la Cour. Il peut, comme les États-Unis, refuser un visa à son procureur. Et il peut aussi faire les choses de manière plus subtile ou plus habile. Ce que le Soudan a fait dans un premier temps, c'est-à-dire que tout en protestant sur le fait que le Conseil de sécurité, alors qu'il était État non parti, ait saisi la Cour et qu'il soit l'objet de ces enquêtes, dans un premier temps, il a fait mine de collaborer et de poursuivre des crimes. Bon, ça s'est avéré très vite être de la poudre aux yeux. Il peut le faire aussi avec quelques résultats, plus habilement, comme l'a fait le Kenya, hein, c'est-à-dire à la fois tout en s'opposant au sein de l'Assemblée des États partis, en disant qu'il avait, lui, d'autres préoccupations de sujets à traiter, en faisant mine de collaborer, mais en ne donnant pas les documents qui sont nécessaires pour étoffer le dossier, et puis le dossier coule. Et puis, effectivement, donc, on pourrait ouvrir des procédures pour aller vers un acquittement des accusés, dire voilà, bon ben voilà, c'est acquitté. Dans une certaine mesure, c'est effectivement une parade qui peut porter, parce que sauf...
Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Sauf à refaire tout le procès pour dire... sauf à contester, disons, la
juridiquement, quel est...
Ce qu'il est possible de faire, c'est qu'il y a malgré tout un examen, disons, il y a une forme de contrôle. Opérer par la Cour dans la coopération avec ces pays-là. Alors, il y a trois situations aujourd'hui dans lesquelles ces questions se posent. Il y a la Guinée, sur laquelle il y a un massacre dans un stade, un massacre emblématique, qui a été commis, et un procès et se met en place, mais se met en place depuis très longtemps, depuis des années, des enquêtes sont ouvertes, etc. Bon, alors, le procès doit se faire en Guinée, donc la Cour pénale internationale coopère, apporte son soutien pour que ça se fasse, mais laisse la situation ouverte en examen préliminaire, et si jamais elle considère que finalement tout cela n'aura été qu'une vaste mascarade, elle reprendra le dossier. Elle le fait aussi pour la Colombie, l'examen préliminaire, elle a ouvert depuis plus de 10 ans, donc c'est un examen préliminaire qui est au long cours, où le procureur n'a ouvert aucune enquête, n'a ouvert aucun procès, mais toutes les années seront en Colombie, demande que sur tel et tel dossier, les dossiers des faux positifs, etc., on lui apporte des éléments sur des avancées. Et effectivement, ce qui se passe en Colombie est à la fois, bon, vous le voyez, assez compliqué. Quand il y a eu des changements de gouvernement qui eux, peuvent ne pas avoir la même vision des accords de paix avec la guérilla des FARC. Mais les choses avancent quand même. Et donc, voilà, elles gardent. Et puis, on l'oublie souvent, mais il y a la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne a été mise en cause pour les actions de soldats anglais en Irak. Et là aussi, la situation est en examen préliminaire. Et donc, les Anglais sont tenus de donner chaque année, puisque il y a un bilan de l'examen préliminaire toutes les années, donnent des éléments pour dire que des poursuites, des dossiers sont ouverts. Donc, la Cour n'est pas sans moyen, disons, si on vraiment, c'est tout n'est qu'une vaste farce. Mais à vrai dire, c'est quand même compliqué. Je veux dire, si effectivement les procès sont des procès qui sont biaisés, s'il n'y a pas de manière manifeste un acquittement de tout le monde, on peut très bien avoir des condamnations, comme on les a eues aux États-Unis d'ailleurs, hein, pour Abu Ghraib, de soldats. On peut avoir des condamnations, mais ça remonte pas trop haut. À ce moment-là, effectivement, c'est difficile.
Il y a la question du temps, c'est-à-dire que plus le temps passe. Bien, mesdames, messieurs, on s'arrête là. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre sagesse et de votre participation à ce débat. Nous ne souhaitions absolument pas vous donner clé en main une interprétation des rapports juridico-politiques dans le monde, mais surtout ouvrir les questions et les proposer à votre débat. Je vous incite à lire Politique étrangère, parce qu'il y a deux admirables articles dedans, mais en réalité il y a un dossier qui traite des questions juridiques qui est plus large. Rassurez-vous, ça ne me rapporte absolument rien. Mais lisez Politique étrangère quand même. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à nos intervenants.
Merci à vous. Merci.
Et merci beaucoup à Dominique David pour l'animation de ce débat. Donc nous vous donnons rendez-vous le 6 avril prochain. Il y aura une autre séance consacrée à la situation dans le golfe arabo-persique. Merci. Très bonne soirée.